Oui, bonjour Rebe, bienvenue à Conduite Antisportive à 694.3. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Charles Blanc. Charles, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien. Aussi, un revenant qu'on a aujourd'hui.
Ouais,
il, la neige a assez fondu.
La température était clémente.
C'est ça, il a starté son char à temps. Félix Lajoie, comment ça va?
Ça va bien, gars, vous autres?
Ça va bien, surtout que t'es là, en plus.
Ouais, c'est ça, ça fait
les gars, ils disent ça comme si à chaque fois, j'étais pas là.
Ben, en tout cas...
dit Charles qui est parti pendant un mois.
Ouais,
c'est quand même ironique. En tout cas, aujourd'hui, on va parler, premièrement, on va parler du CF Montréal et de leur super saison. Ensuite, on va faire un retour sur les séries de la LNH. Commençons par le CF Montréal, encore une défaite la semaine passée. Félix, tu étais en présence là-bas. Peux-tu nous raconter un peu ton expérience?
Ben, écoute, c'était au stade, fait que c'était quand même le fun, mais match très ennuyeux. Puis, je sais pas si vous l'avez écouté à télé, mais c'est sûr que, d'après moi, après la mi-temps, vous avez juste fait, bon, ok, c'est beau, je vais m'en aller, je vais écouter d'autres choses, parce que c'était vraiment un match, ben, comme tous les matchs chef mal, puis les Blanus, quand même, comment dire, un match de merde, puis ouais. C'est un match où on s'emmerde à l'écouter, en fait.
S'il y a pas, même, tu sais, on s'attendait à une saison moins bonne que l'année passée, mais là, il y a rien d'excitant, il y a pas aucune chimie. Ça manque d'attaque, ça se prend plein. Là, ils jouent contre DC United, une équipe pas excellente. Et ils se sont pris juste un but sur. En plus, Félix m'a dit que tu l'avais manqué. Je sais pas si t'étais allé chercher de la bouffe ou quoi, mais
tu sais. J'arrive à remonter les estrades, là, pis personne qui parlait. Je me suis dit, bon, c'est correct, c'est normal. Puis là, je reviens, puis là, je joue 1-0. Bon,
ouais, c'est le début de la demi. DC United commence avec le ballon, passe en arrière, un dégagement du gardien qui sera dans surface, ça revole, un tir, un poteau, un retour, un but. Bon, ok. Puis il n'y a jamais eu. Je sais pas qu'est-ce que t'as pensé, là, mais le seul point positif, moi, j'ai trouvé, c'est le nouveau, Bryce Duke,
ouais.
Qui a vraiment bien joué. Mais ça commence. On en parlait la dernière fois qu'on a abordé le CF Montréal. Là. C'est pas toute la faute du coach, il y a des blessés. Mais je sais pas si ton point de vue a changé, mais là, il commence à avoir moins de marge de manœuvre, là, selon
ben
moi.
Ben non, mais c'est ça, dans pas très longtemps, c'est fini pour lui. Là. En fait, je pense que en fait ce soir, il y a un match à championnat canadien contre une équipe semi-professionnelle. S'il passe ce soir, c'est sûr que c'est fini. D'après moi, dans mon livre à moi, c'est inacceptable de perdre contre une équipe semi-pro, surtout quand t'es CF Montréal. T'as 8 matchs à jouer. Ben en fait, ça va être ton 8e match de l'année, puis eux, ça va être leur 2e. Puis c'est une équipe semi-pro, fait que t'as pas le choix de gagner. Il a dit qu'il allait faire jouer tout le monde, fait qu'on va voir. Mais s'il passe ce soir, c'est fini. Même, tu sais, s'il l'emporte, mais il continue à perdre dans MLS, dans pas long, il va sortir. Mais est-ce que c'est sa faute si le gars, il a une équipe sur papier, il a une équipe contre désastreuse, il a une équipe vraiment affreuse. Fait que c'est durant sa faute. Ben, il y a plein de choses à regarder là-dessus, mais bon, c'est sûr que c'est vrai que, comme tu as dit, il y a quand même du positif. Ben, il y a Bryce Duke qui a très bien joué. Genre, tu vois, quand il y a le ballon, il peut créer des étincelles, un peu comme Mihailovic. Il fait des choses que plusieurs joueurs ne tenteraient pas, des passements de jambes et tout, des feintes, des passes un peu genre fancy, là, ça,
bon,
ça comme ça.
Il y a une talonnade là,
ouais,
qui
c'est
avait
des
mis
talonnades.
Offert le buteur en bonne position. Bon, un classique CF Montréal, il a mis ça 3 points au football,
ouais.
Là, par-dessus le but, mais... Mais c'est ça, on voit du beau jeu de sa part.
Puis tu sais, il veut aller jouer en Europe, c'est son objectif. Puis s'il est à Montréal, ben il est à bonne place parce qu'à Montréal, on envoie plusieurs joueurs en Europe. Fait que je pense que c'est bon pour lui, puis c'est bon pour le club. Mais après, il a le temps, il y a d'autres joueurs qui ont le temps de faire leur marque. Il y a d'autres matchs à domicile. Puis c'est ça, au moins, dans ce match-là, on subissait plus. Tu sais, on a perdu juste 1-0, mais on avait la balle à la fin. Genre, là,
ouais.
Des autres matchs avant, on n'avait jamais la balle. On perdait 4-0, 5-0. Là, on a juste perdu 1-0, on avait la balle. Mais tu sais, on a juste pas les gars de scorer. Fait que, en tout cas, il y a un peu plus de positif, mais moi, je reste encore sur mon point. Je pense que c'est peut-être une équipe de séries éliminatoires quand que Joey Saputo va ramener des joueurs et tout, mais pour l'instant, c'est sûr que ça, on a perdu contre DC qui était dans les bas-fonds aussi, fait que c'est pas vraiment
C'est ça qui est décevant, je trouve, là. Tu sais, oui, on n'a pas concédé beaucoup, mais on joue contre une équipe vraiment, tu sais, qui a de la difficulté dans les dernières années, encore cette année. Ça aurait été le fun de voir l'impact attaquer ou être plus dangereuse. Là, il s'est pas passé grand-chose. Comme tu dis, ils sont à, je pense, deux victoires des séries éliminatoires,
ouais.
Deux ou trois. S'ils se mettent à gagner demain, c'est faisable, là, c'est très réalisable. Mais par contre, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, mais je leur donnais le bénéfice du doute à l'état-major de l'Impact, mais j'ai vraiment pas aimé leur été. Finalement, là, j'avais des questionnements sur le milieu, mais tu dis, OK, on va faire jouer les jeunes, mais je repense à ça. Ils sont pas allés chercher. Le seul gros transfert qu'ils ont fait, c'est Herrera. Ils sont allés chercher un joueur à une position qu'on avait déjà quelqu'un qui peut jouer là. Zachary Brouguillard. c'est le seul transfert qu'ils ont fait. On a déjà quelqu'un là. Mais ça a apparu sur le terrain depuis le début de la saison. C'est pas pour rien qu'on a laissé partir Cameron Miller, un excellent défenseur, pour aller chercher un milieu de terrain, parce qu'on avait personne au milieu. Là, hier, dans les partants, il y avait Hamdi et Iliadas. Tu l'as vu sur place, là, c'est pas excellent. Là.
Ouais, non,
ça
c'est
fait
ça.
Assez pitié. C'est... comme joueur de rotation, OK, bon, je comprends qu'il y a des
c'est
blessés.
C'est pas des gars que tu mets sur partant pour gagner un match. Là.
Non, c'est ça. Puis OK,
c'est
des blessés,
joueurs de championnat canadien. Quand tu fais tourner l'effectif pour donner une chance à tout le monde de se faire valoir. Même.
Exact. Là, ils sont rendus partant. Bon, OK, Piet est blessé, mais Piet remplacé en défense centrale juste avant de se blesser parce que c'est qui, c'est-tu Camacho qui avait pris un carton?
Ouais. Ou,
je veux dire, ton capitaine doit jouer à un poste qui n'est pas le sien. Parce que t'as pas personne pour remplacer. Maintenant, on a Corbeau, mais ça a pris du temps avant. Ils l'ont pas signé pour le début de la saison. Je trouve que globalement, Olivier Renard, c'est une bonne acquisition pour Montréal. Il a fait de l'excellent travail, mais je pense qu'il a échappé. C'était peut-être trop concentré à aller chercher le plus possible pour ses joueurs vers l'Europe, mais pas assez regardé pour renchérir dans son club.
Ouais, mais peut-être juste aussi qu'il s'est juste dit « Bon, je pense qu'on peut être correct avec ça, puis on va regarder comment ça va se passer. » Je pense qu'il s'est peut-être dit que ça va peut-être bien se passer, puis là, il y a eu quand même beaucoup de blessures, fait que la machine, ça chante un peu sur eux. Mais depuis en fait qu'il voit que ça va pas bien, ben je pense qu'il a bougé, puis c'est ça qu'il fallait faire. Il a changé Miller. Miller est un très bon défenseur. D'après moi, on a payé trop cher pour Bryce Duke puis Lasseter. Bryce Duke, en fait, ça devient le joueur le mieux payé en termes d'échange dans la MLS, en termes de gamme sur Yatsu, parce qu'on donnait 1.3 plus Cameron Miller qui vaut environ 1 million. Fait que, théoriquement, Bryce Duke vaut 2.3 millions. Fait que ça, c'est énorme, mais c'est un joueur qui est très fort, puis il peut devenir super bon par la suite. Mais c'est ça, là, il a quand même bougé, il a cherché deux joueurs contre eux, fait que c'est quand même gagnant, puis il y a un test pas Cameron qui va marquer des buts, ces deux joueurs-là vont peut-être donner plus d'offensive. Mais je pense justement que c'est pas le dernier move à faire, là, parce que cet argent-là, le gamme, justement, que t'achètes, ben, à la fin de l'année, si tu l'utilises pas, ça sert à rien, fait que c'est sûr qu'il va tenter de la dépenser, puis en fait, il y a pas ça, parce que là, il y a pas d'équipe, les partisans sont frustrés, il y avait pas de ben monde au sein de Saputo, puis le monde, les ultras, ils étaient choqués, là, personne chantait et tout, puis genre, tu voyais qu'il y avait rien qui se passait, il y a eu quoi, deux tirs cadrés dans le match, puis c'est des frappes qui a même.
Ouais, que, 11 tirs total de l'impact, 2 cadrés.
C'est ça, c'est des frappes que même moi j'aurais pu arrêter d'un but, fait que c'était pas dangereux, puis des signataires sont venus jouer pour en fait avoir un point. Ils sont venus jouer pour. Oh, on va essayer de prendre un match seul à l'étranger, puis on va voir qu'est-ce qui arrive, puis finalement, ben ils nous ont battus, puis ils ont rien fait de plus que CF Montréal. Mais en tout cas, ça reste à voir.
Ouais,
mais...
c'est décevant. Je sais pas qu'est-ce que t'as pensé, Camacho. Il a rendu des fiers services, mais moi, depuis le début de la saison, je trouve que c'est plus dur, vieilli aussi, là, rendu en haut de la trentaine, avec le départ de Cameron Miller. En tout cas, j'ai regardé le match de la fin de semaine dernière, je me disais, c'est probablement sa dernière saison à Montréal. Là.
Ouais, probablement, mais ben, en ce moment, il a besoin de défenseur centre, fait que c'est sûr qu'on a besoin de lui. Puis, je pense que c'est pas juste lui, mais c'est le fait des milieux de terrain. Il n'y a pas d'option. Fait qu'à chaque fois que les défenseurs centres ont le ballon, ils sont obligés de dégager en avant. Le nombre de balles qu'on a envoyé sera fort, puis que finalement, il gagne en duel parce qu'il est bon, il est physique et tout. Mais, genre, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de circuit de passe qui se creuse. Fait que des gars comme Waterman, Camacho, faut que ça prenne des risques, faut que ça déjoue, faut des petits crochets, puis là, quand ça perd la balle, on lâche la après, mais il n'y a pas vraiment d'option qui vient. Wanyama, ben bon, mais Wanyama, il stagne un peu, il est tanné, puis il vient pas sans faire les efforts pour venir chercher la balle, puis l'avoir au pied. Piet non plus, puis là, il est pas là, fait que ça monte aussi, en quelque sorte, un problème au milieu de terrain, surtout dans les courts circuits de passe. Pourtant, l'année dernière, on était super bon, on faisait des bonnes passes qui brisaient les lignes sans dégager tout le temps. Là, on fait que envoyer le ballon en avant, on le passe souvent, donc je pense que c'est là aussi. Là.
Ouais. Sean Rea qui disait que il y a quelques semaines qu'il aimerait ça avoir un vétéran ou quelqu'un en avant de lui pour lui montrer un peu les secrets là, d'être milieu de terrain offensif. Il va avoir Bryce Duke devant lui, ça va peut-être l'aider aussi à reprendre sa confiance. Parce que clairement, là, c'était trop de responsabilité pour lui tout de suite. Dans le 11 partant. J'aimerais ça qu'il aille chercher un autre milieu. J'ai hâte de voir Bryce Duke là, lui donner plus de game, voir quel genre de joueur il est. Je sais pas si ce serait mieux de l'avoir en milieu de terrain à côté de Wanyama, puis un autre milieu offensif ou un autre milieu à côté de Wanyama et Bryce Duke milieu offensif. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses.
Ben, je pense que ça devrait être lui qui prend en fait les clés de l'attaque, genre le milieu offensif, le 10, parce que genre il a en fait ce qu'on appelle la création, là, tu sais, il peut déjouer, il y a cette fleur offensif là, fait que je pense que ça serait bon qu'on l'aille, puis justement il envoie des bonnes balles, on l'a vu une couple de fois. Puis justement, à côté de Wanyama, tu peux mettre un Piet ou un Chouagneur. Fait que je pense que Bryce Duke comme milieu offensif, c'est parfait. Puis après ça, ben c'est sûr que là, il manquait beaucoup de joueurs, il manquait Kyoto et tout. Si Kyoto était là dans ce match-là, c'était un match différent.
Je pense que oui.
Complètement. Puis je pense qu'on gagnait peut-être. sans rien enlever à fort. Fait que quand tu vas racheter un peu tous ces joueurs-là qui vont venir, même Milievich, si Milievich revient puis il joue en milieu offensif, tu peux peut-être mettre Bryce Duke avec Wanyama, puis Wanyama va que s'occuper de la défense, Duke va être un peu plus offensif. Fait que t'auras plus de punch à l'avant. Mais pour l'instant, t'as rien. Fait en fait, Bryce Duke, tu le laisses en milieu offensif selon moi, puis il a fait des très beaux jeux. D'après moi, ce soir contre Vaughan, l'équipe de Ligue 1 d'Ontario, d'après moi, il peut marquer. Il peut même faire un excellent match. Puis justement, ce soir, c'est un match qui peut relancer l'équipe. Si CF Montréal apporte 3-0, peut-être que samedi, contre les Red Bulls, à la maison, on l'emporte 1-0, peu importe, mais ça relance la saison. Le coach, il a un peu moins de pression sur lui, puis les joueurs aussi, parce que là, en ce moment, je pense que personne n'a fait valoir au match. Tout le monde donne ses billets, puis ben, en fait, c'est ça. On veut plus vraiment aller voir l'équipe qui, pourtant, l'année dernière, était tellement forte. Puis justement, les billets de saison, le nombre de billets de saison a augmenté. Mais en ce moment, le produit est très, très bien.
Puis c'est ça, on en a parlé, c'est pas tout de la faute à Losada. Il n'y a pas l'entraîneur, il n'y a pas des conditions idéales. Tu parlais de Mievich qui devrait revenir bientôt, mais qui était blessé depuis le début de la saison. Ça devrait leur donner un boost aussi. Honnêtement, c'était pas un joueur d'impact l'année dernière, mais il est assez jeune. Là, il va avoir un rôle plus important. Et un Bryce Duke, si mettons, on descend le nouveau venu plus en milieu de terrain, ça va pouvoir le complémenter. Là, deux joueurs offensifs qui vont jouer l'un à côté de l'autre. Et Offord, qui avait connu un bon premier match dans la victoire contre Philadelphie. Mais depuis ce temps-là, je pense pas que c'est vraiment un joueur que tu peux avoir comme partant dans un club qui a de la misère à bouger le ballon comme l'Impact. Ça ne met pas ses qualités
Il n'y a pas de technique. Tu le dis, c'est un joueur qui est fort physiquement et tout. Tu sais, tu comprends pourquoi il y a des minutes. Tu comprends pourquoi il joue, parce qu'il se donne tout le temps, il court, il met la presse, mais il n'y a aucune qualité technique, tout comme Sunusi Ibrahim. Donc, c'est des joueurs que tu l'as vu dans la surface de réparation, il est seul, la frappe à part dans le parking. C'est des choses que tu peux pas manquer quand tu es attaquant non plus, mais c'est vraiment Kyoto attaquant. Mais lui, avec Kyoto, je pense qu'il peut se battre pour tous les duels, créer de la place pour
mettre
Kyoto.
De la pression aussi.
Mais c'est ça, Kyoto, à chaque fois qu'il va jouer en équipe nationale, il revient blessé. C'est la même affaire qui est arrivée, il est revenu, puis là, il est blessé, puis il est pas là. Puis là, il est reparti en Honduras pour se faire soigner. Fait que ben là c'est ça, la liste de blessés elle augmente, puis les défaites ils continuent, puis les buts on en marque pas beaucoup, donc là tout le monde s'impatiente.
C'est
dur de rester positif aussi.
Ouais, il y en a beaucoup qui demandent qui réclament la tête de l'entraîneur. Moi j'arrête. S'il perd à soir, comme t'as dit, là, c'est assez inacceptable. Ce serait pas surprenant que ça soit fini. J'aurais tendance à essayer de voir avec les nouveaux venus, les retours de blessés, s'il est capable de faire de quoi. Ouais. Mais tu sais, c'est décevant. On avait un excellent entraîneur à cause d'une dispute avec le propriétaire.
Un problème d'égo, en fait.
Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, il y en a beaucoup qui veulent que Saputo s'en aille. Moi, je trouve qu'il a fait beaucoup pour le soccer au Québec.
Moi aussi, je suis d'accord.
Je suis content qu'il mette de l'argent dans le soccer. Mais là, tu sais, j'ai pas tous les détails, mais de la manière ce que j'ai entendu, il serait descendu dans le vestiaire, il aurait échangé des mots avec Wilfred Nancy. C'est-tu vraiment la place du propriétaire? En tout cas, perd un entraîneur pour ça.
Ouais, mais en même temps, tu sais, est-ce que c'est la place du propriétaire? Ben, en fait, c'est son club. Puis en Europe, ça se fait partout. En fait, quand une équipe qui perd, en fait, en Europe, la mentalité, c'est que tu perds 3 matchs de suite, t'es fini. Là. Si t'es une grosse équipe du top 3, tu perds 3 matchs de suite, t'es fini, puis on le vire. Ces temps-ci, c'est les exemples parfaits. Le Bayern Munich, qui est en Ligue des Champions, invaincu, donne pratiquement pas de but, je pense, donne 2 buts. Ils ont battu le PSG, Bayern, PSG, Inter, Milan, puis Barcelone. À Ligue des Champions, ils sont super bons, ça va pour jouer un quart de finale, mais sont premiers en Ligue d'Allemagne par un point, ils virent leur entraîneur. Ils virent leur entraîneur, mais l'entraîneur, il faisait parfait. Là. Il était premier partout, puis ils l'ont viré. Puis là, en ce moment, ils sont nuls. Puis c'est ça, Chelsea veut leur entraîneur, il amène un autre, l'autre est autant nul. Donc c'est ça un peu. Fait, est-ce que le problème, c'est de virer l'entraîneur? Je sais pas. Mais toi, Shannon, qu'est-ce que t'en penses?
Mais dans tous les sports, quand ça va mal...
C'est ça, c'est l'entraîneur qui paye le prix. Mais là, est-ce qu'on devrait le faire payer?
Mais c'est plus facile virer un entraîneur que virer l'équipe au complet. De toute façon, je sais pas comment ils vont faire sinon. Là.
Moi, Félix, on va y aller.
Ouais, c'est ça.
Shannon, tu vas jouer d'un but.
Non, moi, je vais être le coach.
Okay.
C'est assez désastreux à vous entendre parler. Mais est-ce que vous avez quelqu'un dans la mire comme prochain entraîneur, vous pensez, ou ça peut être n'importe qui d'après vous?
Je sais. Honnêtement, je vois pas.
Moi, je pense qu'il finit. Ben, en fait, moi, je pense qu'il finit juste pas la saison, ça, c'est sûr et certain.
Ouais.
Parce qu'à un moment ou l'autre, ils vont sortir. Il peut pas finir la saison, surtout avec l'historique du CF Montréal, c'est sûr qu'il finit pas la saison. Puis entraîneur, genre peut-être le remplaçant, je pense que ça serait l'entraîneur de Forge en CPL, parce qu'il y avait des rumeurs sur lui, il voulait un bon petit bout, puis ça serait comme l'accès facile, tu sais, il m'entrait, en fait, il prendrait le prochain step vers la MLS, fait que je pense que ça serait l'entraîneur facile, puis surtout, quand tu conjugues un entraîneur, t'as pas vraiment le temps de penser partout, puis le, fait que là, lui, c'est comme, viens-t'en, puis d'après moi, il prendrait le job.
Je pense que ça peut être ça, dans les assistants à Montréal, il y a personne qui ressort vraiment, mettons, Nancy avait été un assistant avec Thierry Henry, et avant ça aussi, je pense, c'était le choix logique, là, la prolongation. Mais là, Laurent Simon, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience comme coach. Il y avait Patrice Bernier qui avait tenté sa chance avec l'Académie, mais finalement a décidé de retourner dans les médias. Fait que, tu sais, dans l'entourage de l'Impact, le proche, je vois pas personne qui pourrait prendre la place. Mais l'entraîneur en CPL, il y avait... Est-ce qu'il y avait... Je me rappelle pas s'il avait dit que ça l'intéressait pas... cet été, ou finalement, non, c'était pas des vraies rumeurs, mais ce serait le choix logique, là, je pense.
Ouais, mais
comme Félix dit, là, en plein cours de saison, ce serait un choix simple, facile à opérer.
Puis ça, mais je pense qu'il faudrait garder l'entraîneur le plus longtemps possible, voir s'il peut s'ajuster avec lui. On lui a amené des nouveaux joueurs et tout, voir est-ce qu'il peut s'ajuster. S'il part ce soir, il est vraiment dans l'eau chaude, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a aucune raison de perdre un match. Même avec une équipe B, le CF Montréal doit gagner, c'est sûr. Genre, c'est une équipe professionnelle contre pas professionnelle, fait que ça fait aucun sens. Mais après ça, justement, à MLS, ça s'en dit un peu de temps. Mais c'est sûr que si ça continue comme ça, ils vont le virer très rapidement. Mais c'est ça, tu sais. Puis t'as parlé de Joey Saputo. Je pense pas que nécessairement c'est sur sa faute. Il a investi beaucoup dans le soccer. Mais là, en fait, c'est juste le temps de montrer qu'une équipe, la mentalité de Montréal, c'est une mentalité européenne. On va se faire sortir des joueurs de l'académie. Puis on va les amener jouer avec le grand club. Ils vont être bons. Genre, Sean Ray. On se dit, eh ben, Real, on va se dire, ah, il est super bon. Mais Sean Real, il a donné trop de responsabilités, puis on l'a peut-être brûlé. Comme on a brûlé plein d'autres joueurs.
Ouais.
Que justement, en ce moment, ils sont à CPL, Balou et tout, des joueurs comme ça, où c'est que, bon, en ce moment, ils font pas grand-chose, puis ils auraient peut-être pu être des bons joueurs. Donc, l'Académie du CF Montréal est pas assez bonne. Puis justement, les joueurs, ils jouent en PLSQ, Ligue semi-professionnelle au Québec. Tandis que toutes les autres académies des autres clubs de la MLS, ils jouent dans une ligue, la MLS Next Pro. Donc, déjà, de base, ils gagnent un salaire d'environ 60 000. Fait que t'as un joueur qui, la saison d'été, va jouer contre des équipes semi-pro. Il y en a qui sont mal structurés, il y en a une à Joliette, tu vois, dans le sens que c'est pas professionnel, tandis que t'as un autre joueur qui va jouer contre l'Académie de Toronto, l'Académie de Red Bulls New York, l'Académie de, toutes les autres équipes MLS. Donc, c'est beaucoup plus facile de garder un joueur quand tu le payes 65 000 par année. Il y a beaucoup plus de manières de s'améliorer. Fait que je pense justement que c'est pas cette manière-là qu'on peut, en fait, avoir des meilleurs joueurs de foot puis sortir des bons joueurs de l'académie. Oui, on va en sortir de temps en temps, mais des prodiges, on n'en sortira pas. Kone, il vient même pas de l'académie, il vient de Saint-Laurent. Donc, je pense que c'est sûr que t'achètes une star comme Drogba, ça va remplir les grades 1, il va mettre des buts pour l'équipe, on va être bien content, dans 3 ans, on va s'en aller, mais on va avoir gagné pendant un bon petit bout. Fait que c'est ça, faut aller acheter des joueurs qui vont donner envie aux gens d'aller voir le stade. Puis toutes les équipes font ça. À Los Angeles, il y a une superstar. À New York, il y en a une. Partout, il y en a. À Toronto, il y en a deux. Donc, tu vois, c'est ça. Nous, on a un joueur désigné à Montréal, c'est Victor Wanyama qu'on a re-signé. Donc, on pourrait encore en mettre deux autres joueurs. On pourrait emmener deux gros joueurs d'Europe pour faire une différence dans le club. Puis c'est pas l'argent qui manque, on a vendu tout le monde. Fait que, je pense, sur ça, je pense que Saputo achète des joueurs, puis là, ça donne, après ça, peut-être qu'il va gagner.
Je sais pas. Si, c'est sûr que ce serait le fun, là, l'époque de Drogba, même si l'année dernière était probablement la meilleure édition de l'Impact, l'époque de Drogba était peut-être la plus le fun, la plus excitante dans l'histoire de Montréal. Je sais pas si c'est tant la solution, parce que des fois ça marche, des fois non, comme à Chicago avec Shaqiri.
Mais c'est ça, mais tu sais, ça marche peut-être pas, mais je pense que tu peux avoir un mix entre les deux. Ça te prend deux joueurs désignés au minimum. Il y en a un, c'est la pire équipe de la Ligue. C'est juste normal. Ça t'en prend un deuxième, un joueur d'impact. Comme on a eu des Boyan, des joueurs comme ça qui ont été très forts. Mais là, je pense que ça a marché une année. Ça a marché l'année dernière quand, en fait, qu'on a sorti Kone. On a sorti plein de joueurs comme ça. Puis là, on était comme, hey, OK, on va acheter des joueurs pour pas cher. On va les revendre full cher. Mais ça marche pas tout le temps.
Je pense qu'on a, l'erreur, c'est qu'on a trop misé, comme t'as dit, sur l'académie.
Oui, exact.
C'est correct. On a Chouanière, on a Broguillard, des joueurs qui se sont développés, qui sont sortis de l'académie. Mais tu sais, il faut leur donner du temps, des minutes comme remplaçant, le temps de s'acclimater. C'est un gros step là, entre l'académie, comme tu as dit, qui joue dans une ligue, même pas la meilleure ligue de développement là, en Amérique du Nord.
Non.
Pour aller après ça jouer en ligue en pro. Olivier Renard, à date, a été excellent sur les échanges inter-MLS.
Ouais, ça c'est sa force.
Fait que je pense que c'est là, justement, un Bryce Duke qui est jeune, qui veut aller jouer en Europe, tu vas le chercher. C'est vrai qu'on a donné beaucoup. Le temps va nous dire si finalement, est-ce qu'on a donné trop ou pas. Mais c'est sûr qu'on a donné beaucoup. Mais est-ce que, tu sais, Cameron Miller voulait aller jouer en Europe? Je sais pas s'il va être capable ou non. Mais peut-être qu'on va revendre Bryce Duke plus cher qu'on va vendre Cameron Miller.
Ouais, c'est ça.
Donc, fait que peut-être que finalement, sur le long terme, ça va être avantageux. Je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Aller chercher des joueurs sur des clubs qui font pas vraiment jouer leurs jeunes, les amener, les développer, puis après ça, les revendre. Essayer de garder de quoi un peu d'excitant aussi.
Ouais,
là,
c'est
parce
ça.
Que, là, tu l'as vu de tes yeux vus, là. Il n'y a pas d'engouement en ce moment. Là,
non, c'est
club.
Ça. Puis c'est aussi, c'est ça, justement. Ça, c'est bon, les échanges MLS. Je pense que c'est la première échange MLS que on a peut-être perdu l'échange. En même temps, peut-être qu'on va la gagner. Ça dépend. Miller n'était pas très bon. Mais peut-être qu'on l'a. En ce moment, je pense que c'est 50-50. Mais peut-être qu'on va la perdre, cet échange-là. Mais les autres, là, Johnston à Nashville, on l'a gagné. Mihailovic à Chicago, on l'a gagné.
Kyoto,
on les a tous gagnés à date. Ah, ouais. Donc, c'est vraiment haut la main. Donc, je pense que si on continue comme ça, c'est parfait. Mais en même temps, ça te prend un joueur d'impact sur le côté. Ça te prend un petit joueur qui vient d'Europe. Il y a eu une rumeur sur Wahbi Khazri. Finalement, c'était faux. C'est des journaux africains qui ont envoyé ça. Mais un joueur comme ça, ça donne de l'intérêt. Puis c'est surtout un bon leader pour ces jeunes-là. Si t'as envie d'amener plein de jeunes dans ton équipe, ben, faut t'aider des leaders pour leur montrer comment faire la job. En fait, qu'est-ce que ça prend pour être un super bon joueur dans une ligue comme la MLS. Même si les gars n'ont pas d'expérience, ils ont une expérience meilleure que ça. Donc, c'est sûr que dès qu'ils arrivent à MLS, ils vont avoir un impact direct sur l'équipe. Ça en prend un, je pense, un joueur comme
ouais,
ça.
Ouais, peut-être pas obligé d'aller chercher Messi, là.
Okay. Non, c'est ça. Va pas chercher Messi, Giroud, quelque chose comme ça. Faut pas capoter. Mais il y en a des joueurs en Europe, là, qui ont. Leur carrière est nulle en ce moment. T'es ramène ici, puis c'est parfait, là.
Ouais, ben. Piatti, c'est un excellent joueur, mais c'était pas une méga vedette européenne. Là. C'est justement, c'est drôle que tu parles de ça. Moi aussi, je me disais là, cette semaine après le match que je m'ennuyais de Piatti. Même quand on était pas bon, au moins on allumait la télé, ouais. Puis on pouvait espérer de voir des beaux jeux, des beaux buts. Puis t'as raison, des équipes qui ont un seul joueur désigné dans MLS, c'est assez rare. Je sais pas si on est la seule,
ouais.
Mais on doit pas être. En tout cas, on n'est pas beaucoup. Ça en prendrait au moins un, là, un joueur d'impact. Il y a le mercato d'été. On sait pas.
Ben c'est ça, c'est là qu'il va falloir. C'est vraiment là qu'il va falloir se renforcer. Mais d'ici là, il faut gagner parce que sinon, Montréal sera pas attrayant pour aucun joueur. Là.
Ouais, c'est sûr. Je sais pas quelle position toi tu penses qu'il est le plus urgente à
un poste offensif. Moi, j'irais chercher un milieu offensif parce que c'est le trou qu'il faudrait combler avec Mihailovic. Puis on a Kyoto devant. Mais ça pourrait être un ailier. Mais je pense qu'on n'ira pas chercher un ailier. Je pense qu'on va aller chercher un milieu offensif parce qu'il va être dans le cœur du jeu. Il va s'assurer de tout faire sur le terrain. Puis on a toujours à aller chercher un peu des milieux offensifs. Boyan, tu sais, Piatti qui va jouer un peu comme milieu offensif ailier. Puis Mihailovic aussi. Donc je pense que ça va être un milieu offensif. Puis justement, il va faire vraiment une grosse job à cette place-là.
Ouais, Shannon, je sais pas si tu t'en rappelles, j'avais dit que la perte de Mihailovic allait faire mal.
Oui,
là,
oui,
je pense que j'avais
ouais.
pas. J'avais visé dans le mille, je pense.
Oui, c'est ça, exactement. Mais moi aussi, j'avais confirmé avec toi, donc. Mais c'est sûr. Puis, est-ce que vous parlez que peut-être que l'entraîneur est sur le bord de partir? Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des joueurs qui sont des bons candidats qui pourraient être échangés, qui feraient du bien à l'équipe?
Je sais pas s'il y a tant de joueurs qui ont de la valeur tout de suite. Il y a des joueurs qui ont de la valeur, là, Bryce Duke, c'est sûr. Mais tout de suite, moi honnêtement, je suis pas un grand, si je pense que ça paraît, là, un grand partisan de Camacho. Mais il y a
personne. Personne le veut. Ouais, c'est comme Drouin.
Ouais, c'est ça, tu le vendras pas, là. C'est sûr que non. Là. Faudrait que tu payes pour qu'une autre équipe de la MLS le prenne, je pense. À moins que tu aies une équipe cet été qui est dans la course pour qui a une bonne saison. Beaucoup de blessés en défense centrale. Peut-être, là, mais tu sais, ça prendrait un billet de 6,49. Sinon, Wanyama aurait de la valeur, mais tu sais, tu l'échangeras pas à une autre équipe de la MLS.
Ouais, ton joueur lésien, c'est sûr que tu vas le garder. Puis...
Fait que non, honnêtement, je pense que ça prend des arrivées, pas
ouais,
des départs.
Ça prend des arrivées, puis c'est ça. Mais en fait, puis les joueurs qui veulent partir de Montréal, ils partent. Camara voulait partir, Camara, il est parti. Miller, il voulait partir ces temps-ci, il est parti. Donc,
ouais.
Tu vois, tout le monde. Tous ceux qui veulent partir partent, mais en ce moment, ceux qui sont là, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix d'être là. Dans le sens que pas. Tu sais, c'est des bons joueurs, mais pas, tu sais, ils pourraient jouer dans d'autres équipes de la MLS, mais sont bien, ils sont contents ici. Puis même s'ils perdent, je pense qu'ils ont du temps de jeu. Tout le monde a du temps de jeu. Fait que c'est bon. Puis même Bryce Duke qui est arrivé, il a hâte de continuer. Puis je pense qu'il était bien content de justement avoir du temps de jeu parce qu'à Miami, il n'y en avait pas justement. Puis on a vu qu'est-ce qu'il a fait. On lui a donné le ballon. On a eu
plein de une pratique en plus.
Puis il a eu plein de responsabilités. Il prenait tous les coups francs, corner et tout. Il y avait toujours la balle. Les gars, ils passaient la balle. Puis ils faisaient tout là, sur le terrain. Il était parfait. Moi, je l'ai trouvé très fort.
Ça, c'était un peu un signe que ton club va pas bien. Le gars a joué une pratique avec toi et c'est lui qui a toutes les responsabilités.
Pour moi, c'était mon man of the match.
Ouais, moi aussi, clairement. Là, c'est la seule raison pour que j'ai écouté le match jusqu'à la fin.
Ouais, moi, j'ai hâte de l'écouter ce soir aussi pour ça. Là.
Mais il y aurait Piette qui aurait de la valeur. Mais là, c'est un Québécois, c'est ton capitaine. En tout cas, il y a déjà eu des problèmes avec le logo, puis le changement d'identité, puis là, pas beaucoup de monde au stade. Si t'échanges ton capitaine, moi, je pense que tu te tires dans le pied avec un bazooka.
Ouais, c'est ça. Puis Pierre, s'il voulait partir, il aurait peut-être parti en Europe avant, mais tu sais, sa vie de famille et tout ouais, est ici. Fait que, ça, il aurait pu partir en Europe, là, 2 ans, là, mais Pierre, il est bien ici. Fait que tant mieux. Bon, c'est sûr qu'on va le garder, lui.
Je sais pas si tu penses que Mathieu Choinière aurait de la valeur.
Ben, dans le futur, ouais. Peut-être une équipe, mais c'est parce qu'à MLS, il n'y a pas beaucoup d'échanges. MLS, on est comme la seule équipe qui fait beaucoup d'échanges entre inter-MLS. Fait que je pense pas que Mathieu Choinière irait dans une autre équipe, mais c'est sûr que Mathieu Choinière, c'est un gars, mettons, en tant qu'agent libre, c'est sûr qu'il se fait signer par une bonne équipe. Mais pour l'instant, je pense qu'il va rester à Montréal pour
un bon bout. Ouais, puis l'Europe, là, ce serait pas un
problème. L'Europe, ça serait, faudrait qu'il joue avec l'équipe nationale du Canada en premier lieu, puis après ça, on pourrait peut-être voir l'Europe, ouais, mais oui, il pourrait partir.
J'aimerais ça, je sais pas ce que t'en penses, j'aimerais mieux le voir milieu de terrain, moi, que ailier gauche ou défenseur gauche.
Ouais, milieu de terrain.
Parce que c'est sûr que la Palainen, cette année, c'est difficile. L'année passée aussi, mais l'année passée, ça avait commencé, c'était compliqué, pas beaucoup de finition, pas beaucoup de création, mais je trouvais que même si c'était pas parfait en fin de saison, le jeu passait souvent par lui, puis des fois, c'était frustrant parce qu'il prenait pas la bonne décision, mais
il y a des choses on aurait besoin de lui, là. Hein?
Ouais, c'est... Mais effectivement, Choinière, je l'aime bien à gauche, là, c'est un joueur complet, il peut faire tout, mais j'aimerais ça le voir au milieu de terrain.
Je trouve que justement, vu qu'il sait tout faire, ses qualités ressortent plus quand il est au milieu de terrain à côté d'un joueur d'expérience comme Wanyama.
Exact. Fait que, comme défenseur, il te coûte rien, c'est un gars fiable qui se donne pour l'équipe.
Ouais.
Mais comme tu as dit, puis ça lui permettrait de grandir aussi en tant que joueur.
Ouais, assurément.
Ben merci les gars, 2 matchs du CF Montréal cette semaine. Pour eux qui ont encore un peu d'espoir comme Félix. Peut-être qu'on va avoir de quoi de positif à dire dans les prochaines semaines, on l'espère. Espérons. Puis maintenant, on va aller à la pause, puis au retour, on va parler des séries de la LNH.
La semaine prochaine c'est good. Désolé j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique. Tu salives lorsqu'on te parle d'actualité? Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Cheese qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et Aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Re-bienvenue à Conduite Antisportive. Vous avez peut-être remarqué que la voix de l'animateur a changé. Shannon est rendu co-animateur, mais c'est la même équipe sur la glace.
Oui. Fallait déneiger mon char.
Ouais, c'est ça. Ben, faut aider Félix, là, avec ses troubles.
Qu'est-ce que vous dites, là? Ça paraît que c'est contre ta fin de session, vous dites n'importe quoi.
Ouais, là. Ben, je sais pas, là. En tout cas, moi, je tracerais pas ton automobile. En parlant de glace, c'était les séries de la LNH qui ont commencé hier soir. Plusieurs matchs, là. En ce moment, on a comme 4 matchs par jour. Pour commencer, les Bruins ont battu les Panthers, les favoris. Une saison record, 3-1. Je sais pas qu'est-ce que... On en avait parlé un peu, moi et Shannon, la semaine dernière. Je vois pas cette série-là trop s'éterniser. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Ben, tu sais, les Floride a quand même bien joué. Là. C'était pas si pire. Floride a aussi... j'ai fait mes recherches un peu. Floride ont donné du fil à retordre à Boston toute la saison. Pas gagné souvent, mais c'est souvent des matchs qui ressemblent à ça, des 3-1 et tout. Ce que j'aime, c'est qu'il y a déjà un peu une rivalité. Ben, pas une rivalité, mais c'est, ça se tape sa gueule. Là. Il y a le clip de Bertuzzi là, qui arrive sur le banc, là, qui prend un hockey puis qui le casse en deux. Là. Au moins, ça peut rendre les matchs excitants. Puis Boston, c'est sûr que c'est les favoris, ils vont être durs à battre. Mais Floride, ça va un peu mieux. Au moins, c'est moins pire que contre Tampa Bay les autres années d'avant là, où ils se faisaient complètement ramasser. C'est sûr, c'est juste une partie, puis on a déjà vu des upsets juste hier. Mais je pense que les deux, s'ils sont capables d'envoler une à Boston, là, ça pourrait peut-être leur donner une confiance. Mais je pense pas qu'ils s'attendent vraiment à gagner une, du moins à Boston là, pour la Floride.
Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Félix.
Ouais, c'est sûr que Boston, c'est l'équipe à battre, mais est-ce que Boston peut se rendre jusqu'à la coupe? Parce que d'habitude, les équipes qui gagnent tout pendant la saison régulière, c'est plus difficile à serrer sur une nouvelle saison, tout le monde le dit. Donc ça reste à voir, mais oui, je pense que t'as raison, Shannon, là, les Panthers, ils en gagneront probablement pas à Boston. Parce que en fait, c'est juste Boston, puis c'est dur de gagner là-bas. Puis la mer, c'est hostile et tout. Mais en Floride, si les billets se vendent toutes, peut-être, ouais. Peut-être qu'il va peut-être gagner. Mais ouais, ils ont une bonne équipe.
Je sais pas, là, les Snowbirds recommencent à revenir
c'est ça, mais,
au Québec.
T'sais, c'est pas qu'ils ont une mauvaise équipe, mais Boston, c'est juste trop fort pour eux.
Ouais.
Fait que je pense que tous les autres match-ups auraient peut-être été plus favorables pour eux. Mais celui-là, je pense que c'est vraiment le plus dur là, pour les Panthers.
En même temps... T'sais, c'est sûr, là, tu joues contre la première équipe, c'est pas évident pour personne. Partout dans la Ligue nationale, là, hier, ça a été des matchs serrés.
Mais tu sais, ouais, ça, ils ont bien joué, ils sont bien défendus. Le match a été quand même serreux. Puis Ketcher, quand il joue un excellent match, il a pris l'équipe en fait sur son dos un peu. S'il peut continuer comme ça, puis en même temps, Barkov qui se lève un peu, puis le reste de l'équipe qui commence à jouer ensemble. On a vu l'année dernière, en fait, c'est les Panthers qui ont fait une surprise, qui ont éliminé les Capitals, puis justement, ils perdaient 3-1, je pense, puis ils sont remontés ou ils perdaient 3-2. En tout cas, ils étaient sur le bord de l'élimination, puis Verhaeghe avait été vraiment clutch, là. Donc, c'est une équipe d'expérience, puis ils peuvent le faire, là.
Ouais, mais c'est ça.
T'sais, l'année dernière, les Panthers étaient beaucoup meilleurs que cette année. Mais ça reste qu'il y a quand même l'expérience qui rentre en ligne de compte. Là.
Mais aussi, il faut prendre en compte que leur gardien, c'est Alex Lyon, qui est vraiment un gars de AHL aussi.
C'est
sûr qu'il a la main chaude ces temps-ci, mais ça reste que c'est pour amener... Il y a une game de 7-8 buts, ça s'en vient, là, je vous préviens. Donc, Bobrovsky va rembarquer puis ça va être pire.
Ouais, c'est une drôle de situation, les gardiens là-bas, avec Bobrovsky, Spencer Knight. Ils ont beaucoup de gros noms, mais...
Alex Lyon.
C'est ça. Écoute, je pense qu'il regrette leur contrat de 10 millions là, à Bobrovsky.
Ouais, il aurait dû le donner à Carey Price, mais bon.
au moins, il aurait pu le mettre sur la liste des blessés.
Tu sais, le talent, il a quand même. Là. Ils ont gagné la Coupe du Président l'année passée.
Ah ouais.
Kachuk, qui a une saison dessus de 100 points, si je me trompe pas. C'est juste que, tu sais, c'est trop de changements.
La perte de Huberdeau leur a fait mal avec sa chimie avec Barkov.
Pourquoi tu changerais ça?
Mais en même temps, Kachuk, c'est un joueur de série. Ben, tu sais, c'est un bon joueur tout court, là, mais... il est encore meilleur en série.
Mais l'échange a démontré qu'ils l'ont gagné parce que Huberdeau, la production de points.
Ouais, la plus grosse différence de points entre deux saisons. Différence négative.
Puis les Flames n'ont pas fait des séries non plus. Fait.
Mais tu sais, les Panthers ont quand même régressé pas mal. Ouais. Ils ont aussi perdu Uyghur, qui était comme leur meilleur joueur
en défensive.
Mais là. je pense pas que c'est tout ça qui affecte. Puis je pense que c'est un peu de changement. Là. Peut-être leur donner une année comme cette année. Là, puis l'année prochaine, ils vont monter un peu d'instanding. Surtout que Tampa Bay descend. Puis je pense pas que Boston va refaire ça l'année prochaine non
ça
plus.
Ça serait surprenant. Ouais.
Mais on sait jamais. Aussi, je sais pas si t'as regardé les autres matchs, Charles, ou...
J'ai regardé un petit peu la fin de Kings Oilers.
Où tu t'es couché tard, en fait.
Ouais.
C'était un bon match. Malheureusement, les Oilers ont perdu. Ils ont tout le temps de la misère contre les Kings. Je l'ai dit l'année passée. Mais Draisaitl est en feu, qu'on peut pas.
On en avait parlé justement la semaine dernière. Là, c'est un sacré joueur de série en santé, ouais, là, dur à arrêter.
Deux buts, je pense. Puis ils ont juste complètement choqué. Là, quand tu laisses un but dans un petit netter à 32 secondes, puis après tu perds en overtime. Ça fait mal. C'est une game gagnée. Il n'y a pas de points en playoff. Donc je pense que c'est peut-être une lacune qu'on n'avait pas vue, que les analystes non plus n'avaient pas vu des Oilers qui, peut-être que sous la pression comme ça.
Ouais, ils n'ont pas tant d'expérience.
C'est ça. Puis ça faisait longtemps qu'ils avaient perdu, là. Ça faisait, deux semaines ou même plus. Ben... Là. Donc là, peut-être que c'est ça qu'il leur fallait pour se réveiller. Chapeau aux Kings, qui leur manquait Fiala puis Vallardi, si je ne me trompe pas. Que tout le monde les mettait quasiment perdant en 4 là, avec leur fin de saison qui était pas mal moins bon que les Oilers.
Ouais, mais j'avais dit, pas la semaine dernière, mais avant un peu, les Oilers étaient dans leur séquence victorieuse. Moi, je trouvais que le match-up Kings-Oilers c'était probablement le pire pour les Oilers.
Je m'en rappelle.
Avec la défense, c'est Kopitar et Dano qui sont deux excellents centres défensifs. Mais, comme tu as dit, là, ils ont choqué. Il y avait la game en contrôle. Mm-hmm. Je sais pas, Félix, t'étais assez confiant avec les Oilers.
Ben ouais, mais tu sais...
Avec le résultat d'hier, est-ce que t'es encore aussi confiant?
Ouais, parce qu'à tout moment, McDavid, il se lève, il fait un point, puis après, il en fait un deuxième, un troisième. McDavid, il a aucun point, ça, c'est rare quand même.
Ouais.
Puis ça a été plus compliqué pour lui, mais Drysdale, s'il veut. Mais le problème, le gardien, on en a parlé souvent pendant l'année. Ouais. Puis ben hier, c'est encore ça, là, les buts de ce que Stuart Skinner donne. Le but du revers sur Kempa, OK, il a vu un peu obstrué, je peux comprendre, mais le but à la fin, il fait mal. Il fait mal. La passe, c'était le jeu, il l'a bien lu. Après ça, la rondelle qui passe juste entre ses jambes. Ça a été difficile, ce match-là, pour Stuart Skinner. Puis même, il y a même un autre but aussi qui a paru un peu faible. Je pense que c'est plate, mais bon, ça reste que, d'après moi, les Oilers vont gagner quand même la série. Mais c'est ça, la pression... Le fait que t'as pas vraiment un gardien très très fort, puis les gars, justement, l'année dernière, ils le savaient, là, Smith, il donnait des mauvais buts à chaque match. Là. Fait qu'à chaque match, il fallait que tu reviennes dans le match. Ça, c'est compliqué. Donc, je pense que justement, il va falloir faire attention à ça. Du côté des Oilers, la pression, puis justement, notre gardien, on sait qu'il en arrêtera peut-être pas beaucoup pour nous. Fait qu'il va falloir justement donner plus, puis offensivement, marquer plus de buts. Hier, elle a juste marqué 3, mais l'année dernière, rappelez-vous, contre les Flames, il y a un match, ça a fini 9-7, je pense. C'était fou. Ouais, il perdait genre 6-1. Il perdait 6-1, c'était 6-6. C'était comme, mais qu'est-ce qui se passe?
Là? Ouais. Ah, regarde ce que... En même temps, moi, c'est ça. Je pense, je l'avais dit, je le pense encore. C'est pas un match-up évident pour les Oilers. Mais je pense que là, pas de points pour McDavid, c'est une game serrée. C'est peut-être pas un bon signe pour les Kings. Là, parce que tu le stopperas pas toute la série.
Mais une victoire, c'est une victoire.
Une victoire, c'est une victoire.
Edmonton, en plus.
Ouais, non, c'est ça.
Je pense qu'ils vont le prendre sans Fiala puis Vallardi, en plus.
Ça fait du bien.
Puis, tu sais, Draisaitl s'est levé pour compenser McDavid aussi. Là. McDavid va voler des points à quelqu'un à un moment donné. Oui, il va se réveiller. Là. Je pense pas qu'il va faire comme contre Montréal quand c'était la série canadienne dans la saison régulière.
Dans la bulle. Là.
C'est ça. McDavid n'a rien capable de faire contre Dano. Il a été capable de se lever un peu l'année passée, mais ça a été la série qui leur a donné plus de fil à retordre. Donc, c'est sûr que ça va être un peu plus dur. Mais parlant des gardiens, de l'autre côté aussi, c'est pas fameux, le Korpisalo.
Ouais, c'est ça, Korpisalo.
C'était le gardien de la péréquipe de la Ligue il n'y a pas si longtemps. Là.
C'est sûr que quand les Blue Jackets étaient surprenamment bons, à un moment donné, je pense qu'il y avait eu genre 75 saves.
Ouais, je pense que c'est lui qui a le record, rend du plus d'arrêts dans un match.
C'est ça, donc, mais même...
Contre le Tampa, je pense.
Ouais, c'est ça, puis je pense que c'est Phoenix Copley de backup, là, donc... Les deux côtés, là, à un moment donné, là, même juste 7 buts, je pense que c'est le minimum pour eux. Là.
Ouais. Mm. C'est sûr que les Kings sont bons en défense, mais quand t'as pas de gardien, puis tu joues contre McDavid, Ça risque d'être une bonne série. C'est sûr que les matchs, comme tu as dit, sont dans l'Ouest, sont tard, là. Mm-hmm. Mais.
Hey, sont tard, tu dis. La game du Wild a fini à 1h30 du matin, genre, avec la prolongation.
Ouais, mais parlons-en du Wild.
Mais dans quel monde est-ce que tu peux rester à 1h30 du matin, un lundi soir, à écouter le Wild contre les Stars?
Ben, écoute, moi, c'est mon équipe.
Ouais, mais.
À part pour regarder Jake Oettinger qui est fumant.
Ouais, oui. Mais Félix, je vais te montrer comment faire ton horaire. Là, dans le fond, le truc, c'est que tu prends pas de cours à
8h30. Ah, OK.
T'es prends tout à 5h.
Ouais, c'est ça.
Tout réglé.
Mais, c'est pas possible.
Ouais, les Stars qui gagnent... le Wild qui gagne contre les Stars, Shannon l'avait prédit.
Ton équipe, ça,
Shannon avait prédit, mais si je me trompe pas, que le Wild allait gagner la Coupe Stanley en 16 matchs.
Ouais, exactement. Puis je tiens encore sur mes trucs, donc je vais rester avec ça. J'ai été surpris que ça soit autant serré. Non, c'est pas vrai, mais... comme tu dis, très fumant. C'est sûr qu'en plus, c'est pas un beau but à la fin, là, en prolongation. Là. Tout le monde est brûlé. Turnover en arrière du but, il est tout seul devant le net.
Ah, même Oettinger, il savait que c'est fini. Là.
C'est ça. Là, c'est malchanceux. C'est qui va être capable de rester sur la glace le plus longtemps. Un but au début de match qui est Claronnet Momentum. Ils sont fait deux... Par exemple, les deux buts d'Alex Quick, deux power play, ça leur a pris, je pense, 5 secondes, les deux, au total. Là. Ils gagnent la mise au jeu, premier tir, là, rien à faire. Donc, peut-être faire attention les prochaines fois, là, parce que si à chaque power play, tu te fais scorer.
Ouais, beaucoup trop, les mises au jeu, beaucoup trop mises au jeu perdues par le Wild, en fait.
Mais match très serré, c'est ça. Mais tu sais, Dallas joue souvent des matchs comme ça, là, mm-hmm. si on l'a vu les années des playoffs. Je suis resté souvent debout jusqu'à 2h du matin, moi, pour voir des matchs. Peut-être souvent à Dallas. Mais ça aussi, série très serrée. Par exemple, je pense que. C'est le Wild, techniquement, une meilleure équipe.
Es-tu encore confiant?
Non, mais là, Pavelski est blessé. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est juste que Oettinger, en série, je ne sais pas ce qu'il prend, là, mais c'est une différente bête. Là. Il fait tout que des arrêts. C'est juste, à un moment donné, c'est plus de sa faute. Il faut que Dallas score là, aussi. Eux, c'est pas les Oilers. Là. Ils ont les joueurs, mais des fois, on a de la misère à marquer. Donc... c'est peut-être ça un peu la faiblesse de Dallas.
Ouais, Félix, t'étais pas là la semaine dernière, fait qu'on sait pas trop tes prédictions. Qui tu penses qui va gagner cette série-là?
Ben, moi, j'ai mis dans mon bracket les Stars. Okay. Mais là, je sais pas, parce qu'il a 1-0, peut-être j'aimerais aviser. Mais ça, la blessure de Pavelski, difficile. Puis Kaprizov, il était en forme hier. Pour un gars qui a pas joué et qui en a manqué, il a bien joué. Il a bien fait ça. Puis c'est sûr, ça va être une série vraiment serrée. Là, un avantage de Wild pour l'instant, je sais pas, ça va être sérieux. D'après moi, ça peut aller jusqu'au 7 matchs, cette série-là. Toi, Charles, tu penses que... En fait, tu l'as déjà dit la semaine dernière, moi, j'ai pas entendu, qu'est-ce que tu penses?
Je pense pas qu'on s'était prononcé. Je sais que Shannon, il avait dit que le Wild gagnait la Coupe Stanley.
T'avais dit que tu restais sur Boston, que t'avais de la misère.
Ouais, mais c'est pour une série. On n'avait pas, tu sais, les match-ups étaient pas encore officiels. Donc, je pense pas que je m'étais prononcé sur une série Wild Stars. Mais je vais y aller avec Shannon, puis il m'a convaincu. Je pense pas qu'ils vont jusqu'au bout, là, mais j'aime Kaprizov en série. Je pense que c'est pas nouveau, tu sais, comme t'as dit, il a bien joué, mais un peu comme Oettinger, c'est pas nouveau qu'il prend une deuxième gear en playoff. Fait que je vais miser sur lui.
Ils sont allés chercher des bons joueurs des bons joueurs de rôle là, aussi d'atlimer des transactions qui s'appellent pas. Marcus Johansson, qui est sur la première ligne en ce moment.
Ouais.
Qui faisait absolument rien, je pense qu'il était à Washington.
Ouais, juste sur le quatrième trio là, avant de partir.
Puis là, il rendit sa première ligne, puis tu sais, il joue sur le power play aussi.
C'est un peu leur Lekkonen.
C'est ça, exactement. Il y a aussi Gustav Nyquist, là, tout ça. Ils ont une bonne défense. C'est sûr que. Puis Gustafsson a joué je pense qu'il a fait 52 saves hier. Donc, ma prédiction Fleury était peut-être un peu erronée, mais là, tu sais. Puis le monde avait peur du Wild parce qu'ils ont eu de la misère en fin d'année, mais Kaprizov n'était pas là. C'était vraiment sa santé, vraiment. Puis là, comme hier, scoré premier but, une belle déviation. Donc, puis on sait que c'est lui qui je sais pas ce qu'il y a, là, mais il change toute cette équipe-là. Puis aussi, Matthew Boldy a été un peu silencieux hier. Je m'attends à ce qu'il se réveille aussi.
Puis il manque Eric Sonek aussi, qui est blessé.
Lui, il est blessé pendant un bout. Il est bon en playoff, Eric Sonek aussi. Il est bon two-way forward. Mais le problème avec le Wild, c'est qu'il choke. Fait qu'il faut pas qu'il soit off trop. Là.
Ouais.
Donc, je pense qu'il faut que ça alterne les games. Puis en set, ils vont gâcher les rêves à Dallas.
C'est bon. Une autre série... qui est joué, qui est serré dans le fond. Les Hurricanes contre les Islanders, un match de 2-1. Ça me surprend un peu, ça, ce résultat-là.
C'est plat, ce hockey-là. Ces deux équipes-là, il ouais, faut une chance qu'ils jouent pas tard, eux, parce que tu t'endors direct. Ouais, c'est ça. En plus, les Islanders, c'est Ryan Pulock qui marque. Là. C'est ridicule. Là. Mais on s'attend à ça, là, les Islanders. Les Islanders ont mieux fini que les Hurricanes ont terminé. Puis les deux équipes sont capables d'avoir du succès dans les séries. C'est sûr que les Hurricanes ont été pas mal meilleurs pendant l'année. Mais cela dit, niveau talent, on dirait qu'il en manque encore de quoi. C'est sûr, Sebastian Aho, c'est comme leur meilleur joueur. Mais on dirait qu'il en manque vraiment un superstar qui va prendre...
Si je me trompe pas, Svechnikov est blessé aussi.
Oui, Svechnikov, il est blessé pour le reste de l'année aussi.
C'est ça, ça leur fait mal.
Ça leur fait mal. Aussi, situation de gardien... Mais ils ont quand même dominé hier malgré le 2-1. C'est sûr que Sorokin ça aide aussi dans tes buts. Tandis qu'à Tiranta, il a joué une game normale. Par exemple, c'est des games qu'il faut que tu ailles chercher. Là. Si Sorokin il joue sur sa tête, il faut que tu ailles plus que ton défenseur. Là,
défensif.
C'est ça, défensif qui va scorer d'un slapper de la ligne bleue. Là. Faudrait qu'ils se réveillent un peu. Ils sont allés chercher Boervat, essayer Mathieu Barzot aussi de retour. Peut-être un peu d'impact, ça. Puis ils jouent pas autant. Ils sont supposés pas jouer autant défensif qu'avec Barry Trotz. Donc, faudrait que ça marque un peu plus de buts qu'il y ait les prochains matchs.
Puis Boervat, il va falloir qu'il se réveille parce qu'avant qu'il soit échangé, je pense sur le point par match. Depuis qu'il est échangé, ça va pas bien. Je pense que, il est pas mal tout sur le point par match de loin. Puis là, il y a Barzal aussi qui est là. Si les gros canons jouent pas du côté des Islanders, en fait, c'est pas mal leur seule chance pour eux de réussir à passer cette série-là. Même si les Hurricanes, c'est une excellente équipe qui, dans mon livre à moi, va se rendre très loin, là.
Ouais, mais c'est ça. Hurricane peut pas marquer des buts à chaque match, là.
Non, c'est ça. C'est pas les Linus Hallmark, lui, là.
Non, exact. Mais moi, comme t'as dit, Shannon, ils ont dominé. Je m'attends. C'est sûr que c'est les Islanders qui jouent un style un peu défensif, là, pis ça a du succès en série.
C'est vrai.
Des fois, c'est frustrant, mais. J'aimerais ça, comme tu as dit, pour la beauté du hockey, que les Hurricanes, ils règlent ça là, en pas trop long, en 4-5, s'il vous plaît. Parce que honnêtement, les Hurricanes, ils ont une bonne équipe, ils ont du talent. Ça peut être une équipe qui est le fun à regarder jouer. Je sais pas contre qui ils joueraient en deuxième ronde, s'ils passent. Mais c'est un peu comme le Canadien Flames, c'était des games plates, là, les Flames. Ben, les Islanders, pour la beauté du sport, s'il vous plaît, les Hurricanes... Arrangez-vous pour que ce soit vous qui passiez.
Mais si on veut s'assurer que Tampa Bay passe pas, je pense que les Islanders ont tout le temps le numéro de Tampa Bay. Là.
C'est vrai, mais.
Toronto, c'est vrai.
Ouais, mais comme je t'ai dit, c'est Toronto cette année.
Toronto, merde, t'es fou, tout Toronto, ça passe pas. Non, Toronto, il joue à soir, là, puis les partisans vont être bientôt back to reality. Là.
Ouais, ok, ben on va en parler de Toronto. Je compte Tampa ce soir. Toronto qui a une meilleure saison, qui va avoir l'avantage de la glace.
Une bien meilleure saison aussi.
Ouais, aussi. Là,
presque 20 points de plus, je pense, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Mais, peut-être première game, je pourrais leur donner.
Moi, c'est pas quelque chose de nouveau, ça, gagner les premières games et perdre les dernières pour ça, Toronto.
Le plus qui ont l'avantage, le plus que je suis confiant qu'ils vont perdre.
OK.
Donc,
donc pour le bien de Toronto, il faut qu'ils perdent ce soir.
Si tu veux qu'il gagne, oui. La série, oui.
Okay.
Je pense... Je suis pas capable d'avoir confiance. Peut-être là, à chaque année, c'est leur année, les fans vont être là. Comme Félix dit, je pense que c'est une bonne expression. Ils vont être back to reality. Ils vont être tellement hype, là, direct le lot. Puis là, je sais pas... je pense que ça va être un bon match quand même, mais... Je pense que si Kucherov, s'ils font des pénalités, là, des mistakes là, que les joueurs de Toronto font quand même souvent, là, malgré leur talent et tout, je pense que ça va être un peu difficile pour cette équipe-là. Puis Vasilevskiy, je pense qu'il va montrer qu'il est capable de tenir sur sa tête. Là. Je pense que Toronto ne score pas plus que 2 buts, ils perdent.
Ouais, qu'est-ce que tu en penses, Phoenix?
Ben moi, je pense que en fait, ça va être une série déjà très serrée. Je pense que les deux équipes ont moyen de gagner. Les Maple Leafs, en fait, c'est de rester au plan de jeu. Rester à ce qu'on a bien fait dans la saison qui a marché. Parce que Shannon l'a dit, on a eu une excellente saison pour les Maple Leafs. Fait que continuer à jouer de même. C'est pas parce que c'est des séries, les gars, que faut capoter, on gagne jamais en série. Parce que si ça continue comme ça, en fait, ils vont pas le passer. Moi, je suis d'avis qu'ils passeront pas. Parce que après moi, les Lightning, c'est une grosse équipe des séries dans toi, genre la Coupe Stanley. tu passes à Costanay, tu passes au Lightning direct, ben après le Canadien.
Fait que, ouais, que pas cette année, par exemple.
Je pense que c'est ça.
Ouais, okay, c'est ça.
Mais tu sais, il faut juste, les Maple Leafs, il faut jouer du jeu simple, du hockey simple. Puis tu sais, les gars, ils ont du talent et tout, mais après ça, quand tu vas pas dans le coin, comme tu disais, Nylander contre les Canadiens, elle est jamais dans le coin. Faut que tu donnes les efforts aussi. Tu n'auras pas une série. Tu te rends pas jusqu'à la fin de la Coupe Stanley sans être blessé partout, là. Tu sais, Petrie, il jouait à la finale, puis il avait les yeux, on dirait, il avait consommé des substances un peu illicites avant le match. Fait que tu sais, faut que tu souffres. Les Maple Leafs, sont-tu prêts à souffrir? Non, mais le Lightning, en revanche, ça, c'est sûr qu'ils sont prêts. Puis les gars, Sergachev, tout, c'est des bêtes, là. C'est sûr qu'ils sont là pour gagner.
C'est ce qui est impressionnant du Lightning, c'est que les joueurs vedettes se donnent. Ils payent le prix.
No day off.
Ouais, c'est ça. Ça bloque des tirs, ça revient en défense.
Pas Kucherov, là.
Ben non, mais plus que, tu sais...
Kucherov, il va donner un coup de hockey pour revenir, là.
Ouais, c'est sûr.
Il s'assied sur le One Tee,
puis... Puis il boit de la Budweiser après...
C'est ça,
pendant la conférence de presse. Mais tu sais, reste que c'est sûr que c'est pas le joueur qui joue le plus en défense. Mais si tu le compares, mettons, à d'autres grosses vedettes, tu sais, offensives, ben il va en donner un petit peu plus. Puis t'as Brandon Point qui se donne complètement, mm-hmm. puis Killorn qui joue tout... qui laisse tout sur la glace. Stamkos aussi... T'sais, un joueur offensif, là, mais prend son rôle de capitaine à cœur. Mm-hmm. Là, je suis en train de dire ça, puis peut-être ça m'a refait penser à ma prédiction, là, honnêtement. Mais moi, c'est pas tant... J'ai pas une grosse confiance envers les Maple Leafs, mais c'est le Lightning qui m'impressionne moins cette année.
C'est vrai que ça a été moins impressionnant. Mais...
Ouais, puis ils ont eu des blessés ou les joueurs qui sont allés chercher. Mm-hmm. Comme, mettons, Nick Paul, ben, l'année passée, ça avait super été bon. Là, les joueurs qui sont allés chercher cette année ont moins d'impact. Fait que c'est ça qui me fait pencher un peu plus du côté de Toronto.
Mais c'est des joueurs justement comme ça qui sont qui shine en playoff, des joueurs comme Nick Paul, Cirelli, Brandon Eagles. C'est comme les joueurs parfaits pour complimenter des joueurs comme Kucherov, Stamkos, Brandon Point, que peut-être les Maple Leafs font moins, mais les Maple Leafs sont clairement peut-être un step ahead. Là,
ils ont perdu Lightning a perdu McDonough aussi.
C'est ça. Ils ont perdu Ruta aussi, là, ma dernière paire. Là, mais...
Ouais, mais tu sais, ça s'accumule. Fait c'est, que ça. C'est un peu ça qui me fait pencher vers Toronto. Mais tout peut arriver.
Toronto, tu vas aller chercher O'Reilly aussi.
Ouais, ça, je pense que ça va les aider.
Ouais, il y a Conn Smythe, gagné le Conn Smythe quand il était à Saint-Louis. C'est sûr qu'il n'y a pas eu la deuxième saison de faire régulière qu'on souhaitait. Mais tu sais, t'as des gars, Austin Matthews, qui n'a pas eu une super saison non plus. Tu sais, il a été. Avec une saison de 60 buts, tu t'attends qu'il recommence tout le temps. Il n'y a pas eu ça. Peut-être que ça va peut-être le motiver un peu pour les playoffs. Mitch Marner, qui a une excellente saison, qui est peut-être rendu joueur numéro 1, ce qu'on pensait pas avec la saison de Matthews. Tu sais, le faire Nylander aussi, qui a une, je pense, au-dessus de 40 buts aussi. Là, le firepower est là, c'est juste vraiment...
C'est le mental rendu
c'est
là,
ça,
là.
C'est ça. Puis tu sais, je comprends que Félix, il veut que... Tu sais, l'objectif, c'est de pas y penser, là. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a des jobs qui sont en jeu, là.
Ouais, c'est ça, non. C'est sûr.
L'objectif,
c'est de pas y penser, mais c'est sûr que tu y penses, là.
Ouais, pas vraiment. T'essaies de bloquer ça, mais...
Non, mais tu le sais, là. Puis tu sais, les gars, ils le savent, là. Mettons, tu sais, genre, tu te fais scorer un but, deux buts. C'est un souvenir qui revient tout le temps. C'est comme un traumatisme. Ça revient, puis tu sais, quand mettons, si dans la série, là, il commence à perdre, l'adversité, elle s'en vient. La seule fois que tu penses, c'est qu'on n'a jamais été capable de le faire. On n'a jamais passé une ronde des séries, c'est trop dur.
Ouais.
Est-ce que le fléau est vraiment vrai? Si les Maple Leafs prennent de l'avance à chaque match et tout, puis tout va bien à la fois, c'est bien correct, ça va bien se passer. Mais quand ils vont commencer à t'sais, de l'adversité, l'autre bord, ça va être dur. Puis t'as Vasilevski, meilleur goaler de la ligue, l'autre bord. Stamkos qui est méchant franc-tireur, Kucherov, donne pas de pénalité, là. Prends pas de pénalité parce qu'ils vont te faire payer, là. Puis Brandon Point, 50 buts cette année, Brandon Point. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, deux grosses équipes de chaque côté, ça va être une méchante série. Mais.
Ça va être du beau hockey. C'est
l'équipe
sûr.
Qui va gagner, elle va se rendre loin, après moi.
Probablement.
Mais tu sais, en même temps, on dit ça, mais l'Est est tellement fort.
Ouais, c'est toutes les équipes. Justement, on va passer à la game Rangers-Devils, deux autres bonnes équipes. Dans l'Est, comme tu as dit, là, c'est excellent. On avait parlé un peu la semaine dernière, moi et Shannon, une série qui risque d'être offensive, excitante. Je sais pas, Félix, qui tu vois sortir de là?
Moi, les Rangers, puis je pense que les Rangers, grosse équipe. En fait, les gros canons, si ça joue pas ensemble, si ça jouait pas bien ensemble depuis le début de l'année, là, ils vont step up, ils vont bien jouer. Quand en série, t'as des joueurs individuellement comme Patrick Kane, Tarasenko, Crowder, etc., Panarin, tous ces gars-là, individuellement, vont faire une différence. Là. Tu sais, t'envoies ta troisième ligne quand t'as l'avantage de la glace, puis si ta troisième ligne est Kako, Lafrenière, hey boy, ouais. Watch out, là, au bord, là, tu fais attention. Là, tu sais,
c'est il y a eu des bonnes séries l'année passée, cette ligne-là aussi. C'est là vraiment qu'ils ouais. se sont réveillés. Fait que je pense que s'ils font ça, ils ont aussi Shesterkin aussi, contrairement à Vitek Banecek. Donc, je pense que.
Puis les Devils, c'est dur de faire confiance aux Devils.
Ouais, ben, c'est une équipe jeune. Jack Hughes a une excellente saison. Mm-hmm. On va voir s'il peut être capable d'amener ça en série. C'est pas un gars qui est super gros, mais super rapide. Ils ont quand même un bon duo de centre là, avec Nico Hischier aussi sur la deuxième ligne. Doug Hamilton aussi qui joue bien en arrière, mais tu compares avec les Rangers, ils ont Adam Fox. J'ai hâte de voir.
Mais ils ont surpris tout le monde cette année, là, les Devils.
C'est ça, l'année dernière,
ils n'ont rien à perdre.
C'est ça, fait que je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Puis,
si je me trompe pas, ils ont l'avantage de la glace aussi.
Pendant un bout, ça a été la risée de la Ligue, les Devils. Fait que, je veux dire, ils ont rien à perdre, puis tout à gagner.
Ouais, mais je me disais, Doug Hamilton fait commencer à regretter un peu son contrat. Là, gros contrat, long terme, dans une équipe de bas de classement. Lui qui partait des Hurricanes en plus.
Ouais.
Mais finalement, ça a pas été long, ils ont reviré ça de bord.
Mm-hmm. C'est ça que t'as fait quand t'as un choix, premier choix overall.
Ouais,
comme,
exact.
Le Canadien et Slavkovski.
Exact, ouais. Ouais. Mais écoute, c'était quoi? C'était la deuxième saison de Jack Hughes. L'année prochaine, Slavkovski, 50 buts.
C'est ça.
Ouais. All right. Sur des passes de Carey Price.
C'est Charles Leblanc qui vient de le dire.
Sinon, pour conclure, là, il reste Golden Knights contre les Jets.
Je sais que t'as un truc de Paris, là, que c'est ton équipe, là, mais je pense que les Jets peuvent gagner contre les Golden Knights. Ouais. Les Golden Knights n'ont pas de goaler. C'est sûr qu'ils ont fait le cheese du LTIR. Là. Mark Stone, il peut jouer. Logiquement, là, il est bien correct.
Ils ont appelé le Lightning. Non, mais c'est parce qu'il était blessé, puis il n'est plus blessé. Ouais,
pantoute.
Ils ont appelé le Lightning, puis il leur a dit quand même.
Non.
Mais c'est soit Winnipeg en 7 ou Vegas en 4. C'est
ouais, un ou l'autre. Là, ouais.
Mais les Bucks peut-être voler des games. Je suis optimiste parce qu'à le fond, je pourrais gagner beaucoup d'argent là-dessus. Mais les Bucks peut-être voler des games.
on va te laisser,
je pense que les Golden Knights, même s'ils sont premiers dans l'Ouest, c'est une équipe underdog. Parce que tu les regardes, tu te dis, ouais, Golden Knights, ouais, ils sont forts. Puis tu commences à nommer les joueurs, puis tu dis que c'est une méchante bonne équipe, mais il manque un goaler. Puis les Bucks, très fumant, ils peuvent voler la série.
Ouais, c'est sûr que le gardien joue bien, Logan Thompson, mais c'est une recrue, c'est beaucoup de pression.
Il est blessé.
Ouais, c'est mon boy Laurent Brossois qui go live.
Ça va être cool. Ah, écoute, peut-être tu vas faire du cash, Félix. On va voir. Vite fait, en terminant, Avalanche, Kraken.
Kraken upset.
OK, Shannon, toi, Félix.
Eh bien, mon mec, j'ai tendance à dire ça. Parce que, non, mais sérieux, Landeskog blessé, je pense que ça peut faire mal à l'Avalanche. Puis le Kraken, c'est une équipe jeune, rien à perdre. L'expérience va peut-être aller du côté de l'Avalanche. C'est les champions en titre. Fait que je pense que. Au final, l'Avalanche a des meilleures chances de l'emporter, mais peut-être un petit upset. S'il y en a un, ça serait peut-être là, parce que le Kraken, c'est une équipe qui. Tout le monde a un peu de la misère à contre eux, puis tout le monde les regarde et dit qu'est-ce qu'ils font là. Mais ils sont là.
Écoute, vous êtes complètement délusoire. L'Avalanche va gagner. Sur ce, c'était un plaisir de parler de sport avec vous. Je sais pas si c'est la dernière de l'année. On va voir si on en fait une le mardi prochain. Sinon, merci d'être avec nous. On vous souhaite une bonne soirée.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.